RFI 5h à Paris, 4h temps universel. L'actualité internationale avec Marion Cazanov. Bonjour Marion.
Bonjour Paul, bonjour à tous.
Et à la une, cette nouvelle étape dans l'accord de trêve entre Israël et le Hamas.
Et qui ne sera pas totalement respectée. L'armée israélienne est censée se retirer aujourd'hui du sud-Liban, mais elle a déjà prévenu qu'elle allait maintenir certaines positions dans des villages stratégiques. Les Européens cherchent à rester des acteurs majeurs dans le dossier ukrainien. Réunion de crise hier à Paris, alors que la Russie et les États-Unis vont se parler de leur côté aujourd'hui en Arabie Saoudite. Dans l'est de la RDC, après la prise de Bukavu par le M23 le week-end dernier, un certain retour à la normale observé dans la capitale de la province du Sud-Kivu. En France, l'ouverture du procès des geôliers de l'État islamique, cinq personnes accusées d'avoir détenu des otages occidentaux en Syrie en 2013, notamment des journalistes français. Et puis le choc en Bolivie après l'assassinat d'une figure autochtone connue pour sa défense de l'environnement, un fait rare dans le pays, mais de plus en plus courant sur le continent américain. L'armée israélienne est censée avoir retiré ses troupes du sud-Liban. Cette nouvelle étape était prévue dans l'accord de trêve entre Israël et le Hamas, avec donc le retrait total aujourd'hui des troupes israéliennes dans les villages frontaliers du sud, sauf que l'armée israélienne va maintenir des positions, notamment dans des endroits stratégiques. À Beyrouth, Paul Khalife.
Les Libanais n'ont pas été surpris par la décision d'Israël de maintenir une présence militaire dans la partie méridionale du pays. Lundi, le président de la République, Joseph Aoun, avait exprimé des craintes que l'armée israélienne ne se retire pas totalement du sud-Liban. Le chef de l'État a cependant plaidé pour une approche diplomatique pour régler cette question, soulignant que le Liban ne peut plus supporter une nouvelle guerre. Les cinq collines qu'Israël souhaite conserver sous son contrôle vont de la Méditerranée au secteur oriental de la frontière. Leur emplacement est stratégique car elles surplombent une grande partie du sud-Liban et plusieurs localités israéliennes en Galilée. Des sources de sécurité libanaises affirment que l'armée israélienne a effectué des travaux de fortification, comprenant des terrassements et la construction de remblais dans ces positions qui pourraient accueillir des dizaines de soldats chacune. Ces collines sont situées à l'extérieur des villages, ce qui n'empêchera pas les habitants de regagner leurs maisons, mais pourrait en revanche compliquer l'accès à leurs champs. L'une des collines coupe une route entre deux localités frontalières. Dans ce cas précis, les déplacements seront plus difficiles dans le secteur concerné. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Israël travaille aussi sur la proposition de Donald Trump, le président américain, qui a évoqué il y a quelques jours la possibilité d'un déplacement des Palestiniens de Gaza vers l'Égypte ou la Jordanie. Pour cela, Israël a créé une agence spéciale pour, je cite, le départ volontaire de Gazaouis. C'est ce qu'affirme le ministère de la Défense. Le sujet a aussi été abordé par le chef de la diplomatie américaine à Riyad, en Arabie Saoudite. Marco Rubio a rencontré le prince héritier Mohamed Ben Salman. Riyad, qui accueillera vendredi un mini-sommet avec d'autres pays arabes pour présenter une réponse à ce projet du président américain sur Gaza. L'Arabie Saoudite au cœur de manœuvres diplomatiques. Avant ce mini-sommet sur Gaza, la capitale saoudienne accueille aujourd'hui des pourparlers inédits entre la Russie et les États-Unis. Officiellement, il s'agit de discussions pour une normalisation des relations et elles pourraient aussi poser des bases pour de futures négociations de paix entre Moscou et Kiev. Forcément, ces discussions agacent le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui n'a pas été prévenu. Il déplore aussi une réponse trop faible venant des Européens écartés de plus en plus de ce dossier ukrainien. Certains dirigeants européens se sont retrouvés hier à Paris en urgence pour parler de l'Ukraine. Pas d'annonce concrète à l'arrivée. Daniel Valo est toujours des divisions au sein des Européens.
C'est sans doute Donald Tusk, le premier ministre polonais, qui a su le mieux résumer l'état d'esprit de ses homologues à la sortie de l'Elysée. Tous les participants réalisent que notre amitié avec les États-Unis est entrée dans une nouvelle phase, a-t-il déclaré, en pointant dans la foulée l'impérieuse nécessité qu'a désormais l'Europe d'investir davantage dans sa sécurité. Sur ce point, les Européens semblent d'accord, même si l'ampleur des dépenses qu'ils devront engager continue de faire débat. Pas de consensus en revanche sur l'autre sujet sensible abordé ce lundi soir à l'Elysée, l'envoi de militaires européens en Ukraine pour garantir la sécurité du pays face à la Russie en cas de cessez-le-feu. À l'issue de la réunion, le chancelier allemand Olaf Scholz a estimé hautement inapproprié de l'envisager, se disant même un peu irrité de voir le débat surgir avant même que des négociations aient débuté. À l'opposé, le Premier ministre britannique a redit qu'il était prêt à déployer des troupes. Keir Starmer, qui a qualifié de premier pas vital cette réunion informelle, affirmant qu'une nouvelle rencontre avec ses homologues européens pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine après son retour de Washington, où il doit rencontrer Donald Trump.
Daniel Valo. Et on revient plus largement sur ce sommet de Paris dans un long article à lire en une de notre site internet rfi.fr. RFI 6h05 à Bukavu dans l'est de la RDC, où la situation était relativement calme hier. La ville a été prise ce week-end par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. La capitale de la province du Sud Kivu n'a pas connu de réels combats, contrairement à Goma dans le Nord Kivu. Et hier donc, les habitants ont commencé à sortir de chez eux, à reprendre une activité normale, comme en témoigne Josué Kayeye, un acteur de la société civile.
Je suis personnellement soulagé que les choses se soient passées comme telles et qu'il n'y ait pas eu ce genre de dérapage. Pour l'instant, nous pouvons dire que le sentiment est partagé parce qu'avec leur entrée, on a eu à stabiliser la confusion qui régnait déjà depuis jeudi dans la ville, qu'il y avait déjà une cacophonie où tout le monde pillait, tout le monde faisait tout ce qu'il pouvait faire et tout ce qui avait des armes, les civils ou les autres malfrats qui avaient des armes faisaient la loi. Donc, ils ont restauré un tout petit peu l'ordre. En tout cas, cette peur n'est plus parce qu'on craignait plutôt les affrontements. Donc, la peur qui peut exister, c'est plutôt une peur relative à ce qui pourra suivre. Donc, on reste encore très observateur. En tout cas, le sentiment est partagé pour l'instant.
Josué Kayeye, acteur de la société civile à Bukavu. Propos recueillis par Alexandra Branjon. Medine Mouche. Une nouvelle fois devant la justice, l'auteur de l'attaque contre le musée juif de Bruxelles en 2014 est jugé avec 4 autres personnes dans le procès des geôliers présumés du groupe État islamique. Seuls 3 accusés sont présents, les 2 autres sont présumés morts. Ils sont poursuivis pour la séquestration en Syrie de 4 journalistes français. L'un d'eux, Nicolas Hénin, estime qu'il ne faut pas se focaliser sur Medine Mouche. Il veut plutôt exposer ce qu'il a vu de l'intérieur des rouages du groupe terroriste.
J'étais encore journaliste quand j'ai été pris en otage. J'ai beaucoup observé. J'ai essayé d'enregistrer autant que possible tout ce que je pouvais voir parce que nous étions en fait dans la matrice de Daesh. Nous étions dans cet État islamique qui était en train de se former et au sein de cet État islamique, nous étions dans la cellule qui ensuite allait produire les attentats, notamment sur le sol européen. Donc nous avons beaucoup à raconter de ce que nous avons vu. C'est un peu la contradiction avec les survivants d'attaques terroristes. Une partie de nous nous met sous tension de tourner la page. On veut sortir de ce qui nous est arrivé. Et une autre partie nous interdit d'oublier. Parce que on doit pouvoir confronter les auteurs à leurs actes et qu'on doit aussi transmettre, donner des leçons pour que ça n'arrive plus. Faire un travail éducatif. On a un rôle social, j'y crois très sincèrement, nous en tant que survivants d'attaques terroristes, aussi au nom de tous ceux qui ne sont plus là, qui ne pourront pas témoigner parce qu'ils ont été assassinés par nos ravisseurs.
Le journaliste Nicolas Hénin au micro de Laura Martel. Et dès le début de ce procès à Paris, Medine Mouche a clamé son innocence. Il a affirmé hier qu'il n'était pas le geôlier des otages occidentaux ni d'aucun autre. En Syrie, après la chute du régime de Bachar al-Assad, des milliers d'exilés sont retournés dans leur pays pour retrouver leur famille, voir ce qu'il reste de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et pour ceux qui ont obtenu l'asile en France, tout voyage, tout retour temporaire était impossible jusqu'à présent, car ils risquaient de perdre leur statut de réfugié en France. Mais Paris vient d'y remédier, Laurence Théo.
Jusqu'à présent, les bénéficiaires d'une protection internationale ne pouvaient pas se rendre dans leur pays sous peine de se voir retirer leur statut. Aujourd'hui, les réfugiés syriens ont ce droit. Gérard Sadik, de la CIMAD, Association de défense du droit des étrangers, explique la procédure.
Il faut que ces personnes se présentent au préfet, obtiennent le sauf-conduit contre l'échange de leur titre de voyage, et la durée est limitée. C'est-à-dire que les gens peuvent séjourner au maximum 1 mois dans le pays d'origine. Ils doivent être rentrés avant. S'ils ne rentrent pas, ils peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle une mesure de retrait de protection.
La CIMAD salue une mesure rare.
C'était quelque chose qu'on préfigurait, c'est-à-dire qu'il y a eu dans le passé, notamment pour les réfugiés bosniaques, ce type de voyage exploratoire. C'est une mesure qui est décrite comme ça par le HCR. Donc, le changement de situation en Syrie peut inciter des gens à retourner dans leur pays, mais il y avait un risque qu'ils perdent leur droit au séjour en France. Donc c'est plutôt une bonne mesure pour permettre la transition démocratique dans ce pays.
En France, selon les chiffres de l'OFPRA, 43 000 Syriens ont bénéficié d'une protection.
Laurence Théo, la France, où le budget de la sécurité sociale a été officiellement validé, sans surprise, le Sénat a adopté le texte hier soir, ce qui met fin à un long, très long feuilleton budgétaire entamé en octobre et qui avait entraîné la chute du gouvernement précédent. Un budget de la sécurité sociale donc en hausse pour la santé, plus 5 milliards d'euros pour l'hôpital, mais c'est toujours insuffisant pour les syndicats du secteur. C'est un fait plutôt rare en Bolivie, mais de plus en plus court. Courant en Amérique latine, un défenseur de l'environnement a été tué en fin de semaine dernière dans le nord du département de La Paz. Cet assassinat a fait réagir les différentes organisations indigènes du pays, le président Luis Arce et même l'Union européenne. Correspondance à La Paz de Nils Sabin.
Francisco Marupa était le leader d'une communauté indigène Leko située dans le nord-est de la Bolivie, une région où les mineurs illégaux sont très présents, tout comme les trafiquants de drogue ou encore les braconniers. Le leader s'opposait à ces activités et c'est cette lutte qui pourrait lui avoir coûté la vie. Le lendemain de l'assassinat, un suspect a été arrêté. Celui-ci a reconnu avoir été envoyé pour tuer Francisco Marupa. Les tensions entre communautés autochtones et mineurs sont monnaie courante, mais les assassinats beaucoup moins. C'est pour cela que l'affaire a eu un retentissement dans tout le pays. Le président Luis Arce a fait part de sa consternation et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à protéger les peuples autochtones. Cette affirmation a été critiquée par les organisations indigènes de la zone qui demandent depuis des années une intervention ou au moins un soutien de l'État pour faire face à l'avancée des mineurs, une demande restée lettre morte jusqu'à présent. L'Union européenne a déclaré dans un communiqué que cet assassinat était un exemple alarmant des risques et menaces qu'affrontent les peuples indigènes en Bolivie. Quant aux organisations indigènes, elles demandent qu'une enquête indépendante soit menée. Nils Sabin, La Paz, RFI.
Et le pays voisin, le Brésil, est confronté à une importante canicule. Les 40 degrés sont largement dépassés ces jours-ci à Rio. Rio qui s'apprête à connaître l'un de ses étés les plus chauds. Et alors que se prépare le fameux carnaval de la ville, des canicules de plus en plus courantes, favorisées par le réchauffement climatique. Le Japon, lui, prend un fort engagement pour lutter contre le réchauffement. Il va réduire de 60% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035 par rapport à 2013. Ses ambitions collent à celle de l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement d'1,5 degré. La quatrième économie mondiale est accusée d'avoir le mix énergétique le plus polluant des puissances du G7. Elle s'est déjà fixée d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et puis la fin du suspense. Ce matin, sur notre antenne, on vous annoncera tout à l'heure le nom de celui ou celle qui remporte le prix Découverte RFI 2025. 10 finalistes dont les portraits sont à retrouver sur notre site. Et verdict à 7h45, temps universel dans RFI Matin avec Nemo en Peace. RFI 5h13 à Paris, 4h13 en temps universel. On reste ensemble pour un tour de l'actualité avec nos reportages et nos chroniques. On sera d'abord dans le sud de l'Italie où un programme scolaire essaie de détourner les enfants de la mafia. La mafia reste très influente et puissante dans le pays. En Grèce, les habitants des îles de la mer Égée vivent au rythme des secousses. L'activité sismique ne retombe pas et pourrait durer encore plusieurs semaines. Des séismes qui n'ont fait pour l'instant aucun dégât. L'invité culture de RFI ce matin est le photographe Karim Kahl et qui présente ses clichés d'un mont emblématique de Kabylie en Algérie. Et comme tous les jours, on retrouvera le conseil santé de Caroline Paré, puis on fera un tour dans la playlist musicale du mois de RFI, tout cela avant le retour de l'actualité africaine. On part d'abord dans le sud de l'Italie où la police a mené la semaine dernière une opération d'envergure contre la mafia sicilienne. 147 membres de Cosa Nostra ont été arrêtés. Le groupe s'est renforcé ces dernières années selon les enquêteurs et face à ce fléau, une association a lancé un programme scolaire de sensibilisation. Des centaines d'élèves reçoivent pour cela le livre de Roberto Di Bella, un juge anti-mafia. Cécile Debarge a pu assister à l'une de ces séances.
Pendant des mois, ces collégiens étudient le livre libre de choisir du juge pour enfants Roberto Di Bella. Son visage vient d'apparaître sur la mosaïque qui s'affiche à l'écran. Costume gris, cravate rouge, petite lunette fine, il est en direct de son bureau du tribunal pour enfants de Catane en Sicile.
Nous avons connu des meurtres terribles avec des voitures piégées, des scénarios dignes de terrain de guerre. À Reggio de Calabre, ce n'est pas rare d'entendre la nuit des explosions parce que des magasins menacés d'extorsion sont détruits par des bombes ou des cocktails Molotov.
Son témoignage est le moment fort du projet culturel Justice et Humanité Libre de Choisir. Il raconte comment 12 ans plus tôt, alors qu'il travaille encore à Reggio de Calabre, lui vient cette idée inédite. Proposer aux enfants de mafieux calabrais de quitter leur région pour recommencer leur vie ailleurs et ainsi échapper à leur destin criminel.
Dans les salles d'audience du tribunal pour mineurs de Reggio de Calabre, on en a vu défiler des jeunes comme vous. Et c'est d'ailleurs la même chose à Catane où je travaille désormais. Des jeunes intelligents qui avaient du potentiel, qui auraient pu avoir une vie bien différente, aspirer à une vie de famille, un travail honnête. Et au final, ils ont eu une triste fin. Soit ils ont fini en prison, soit ils ont été tués.
Le juge Di Bella égrène ses souvenirs. Un ado de 17 ans responsable de 6 meurtres, d'autres enrôlés pour surveiller des entrepreneurs pris en otage pendant plusieurs mois et cachés dans les montagnes de l'Aspromonte. Ces histoires sont souvent bien loin de la vie des collégiens du Piémont qui sont connectés ce jour-là. Elles sont malheureusement moins exotiques pour les élèves du groupe scolaire calabré que dirige la proviseure Isabella Marchio.
On plante chez nos jeunes, chez nos adolescents, des petites graines de l'égalité. Et c'est pour cela qu'on veut qu'ils soient toujours libres. Libres de choisir demain, quand ils seront des hommes, des femmes, des mamans, des papas, des citoyens, des citoyennes, pour contribuer positivement à construire une nouvelle société, une société du changement, y compris dans nos territoires difficiles. Comme ici, où, je dois le dire, malheureusement, nous avons eu en septembre une bien triste nouvelle, celle de 44 arrestations.
Ce jour-là, 44 personnes sont arrêtées entre Cerva et Petrona, deux toutes petites communes d'à peine 1000 et 2000 habitants dans la province de Catanzaro où se trouve le collège. Dans l'établissement, les élèves issus des rangs de familles mafieuses sont une minorité, mais tous sont exposés au climat pesant que fait peser la criminalité organisée sur ces territoires. Cécile Debarge, Reggio de Calabre, RFI.
Le reportage international à réécouter sur notre site ou bien sur notre application Pure Radio. Après l'Italie, on se rend dans le pays voisin, en Grèce, où la terre continue de trembler. Des dizaines de séismes secouent la mer Égée et ses îles ces dernières semaines, ce qui a notamment provoqué la fuite de milliers d'habitants de Santorin. Il n'y a pas de dégâts et les secousses sont faibles à modérées. Toutefois, les écoles des îles du secteur restent fermées et cela fait maintenant 3 semaines. Avec nous, Joël Bronner, correspondant de RFI en Grèce. Joël, ce n'est pas la première fois que la terre tremble autour de Santorin, qui se trouve dans une zone sismique.
Non, les Grecs sont en effet relativement habitués aux séismes. Si la terre tremble régulièrement dans la région, c'est en grande partie parce que la Grèce est située à un point de rencontre entre deux plaques tectoniques, la plaque eurasienne et la plaque africaine. Alors, lorsque des frictions se produisent entre ces deux plaques, le résultat, eh bien, c'est que le sol bouge. Mais l'archipel des Cyclades, où se trouve Santorin, est aussi une zone volcanique, et les mouvements souterrains du magma, donc de la roche en fusion, peuvent eux aussi être à l'origine de tremblements de terre. En tout cas, la dernière fois que Santorin a connu une activité sismique intense, c'était entre 2011 et 2012, et cet épisode avait duré à l'époque un peu plus d'un an.
Est-ce que ça veut dire que le phénomène actuel, qui a donc démarré fin janvier, va durer encore longtemps ?
Ici, en Grèce, les sismologues ont rapidement averti que le phénomène pouvait potentiellement s'étendre sur des semaines, voire sur des mois. Le fait est que personne ne le sait précisément. Ce que l'on sait, c'est que le nombre de ces secousses, dont beaucoup ne sont pas ressenties par les habitants, est inhabituel. Plusieurs scénarios sont envisagés. Soit l'activité sismique se résorbe d'elle-même, sans conséquences majeures, soit la série actuelle de faibles séismes pourrait mener à un tremblement de terre plus important, accompagné, dans le pire des cas, d'un tsunami. Les autorités grecques ici se veulent rassurantes, mais dans le fond, c'est toujours l'incertitude qui entoure l'évolution de cet épisode sismique.
On imagine, Joël, que si les séismes, même faibles, continuent à se multiplier dans les jours ou les semaines à venir, il y aura certainement un impact important sur le tourisme.
Tout à fait. Et le tourisme, je vous le rappelle, c'est l'un des piliers de l'économie grecque, et les îles comme Santorin en sont extrêmement dépendantes. En ce moment, c'est l'hiver, c'est-à-dire la basse saison, les conséquences sur le tourisme sont donc encore limitées. La haute saison, elle, commence plutôt à partir des mois d'avril ou de mai. C'est donc à partir de ce moment-là que l'on aura une idée plus précise de l'impact économique de cette série de séismes.
Joël Bronner, correspondant de RFI en Grèce. Dans la nuit noire, des villages et des paysages sauvages éclairés au flash, c'est l'univers photo de Karim Kahl qui présente ainsi une exposition à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. Elle s'appelle Mont Ferratus, du nom de ce massif montagneux de Kabylie, représenté dans cette série de photos. Ce massif du nord de l'Algérie est entouré d'une légende, d'une symbolique importante. Il est réputé inviolable et a résisté aux conquérants. Karim Kahl est l'invité culture de RFI qui répond aux questions de Muriel Malouf.
Karim Kahl, bonjour.
Bonjour.
Que représente la Kabylie pour vous ?
La Kabylie, elle incarne un certain nombre de récits que j'ai entendus depuis mon enfance, des récits liés à un espace de montagne très spécifique, à des populations qui ont des caractéristiques très singulières, à un territoire qui est un émetteur culturel très puissant, et puis évidemment des récits liés à la guerre d'indépendance, à la guerre d'Algérie, aussi très nombreux.
Vous avez photographié que la nuit. Pourquoi ce choix ?
Au départ, ce choix s'est imposé pour des questions de forme. J'élabore une photographie documentaire qui est en grande partie abstraite. Et la nuit, l'obscurité, c'était une solution pour travailler au flash, éclairer certains éléments de mes compositions et laisser le reste dans l'obscurité, donc dans une forme d'abstraction. La nuit, c'est aussi le temps des transgressions, c'est aussi l'espace de construction mythologique pour certains territoires, une forme d'infréquentabilité.
Alors quand on regarde vos photos, je commence par le début de l'exposition, on voit des images de la nuit noire avec des villages au lointain perchés ou un sommet éclairé. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter par cela ?
L'idée générale, c'était de faire sentir l'élévation, le caractère perché de ces villages. Donc les villages de Haute-Kabylie sont construits sur les lignes de crête, en haut des collines, avec des abords souvent inaccessibles, constitués d'une garrigue assez dense ou de la forêt, et la nuit plongée dans l'obscurité.
Vous parliez de l'esprit de résistance de la Kabylie durant la colonisation. Est-ce que justement ces crêtes sont aussi un symbole de par la difficulté d'y accéder ?
Oui, absolument. C'est même au-delà d'un symbole, c'est une des raisons de l'impénétrabilité du territoire et de la difficulté qu'ont les entreprises coloniales à dominer ces espaces et ces populations. C'est que les villages sont fichés tout en haut de ces collines. Donc la forme de la représentation nous raconte aussi le rapport au monde qu'entretiennent les populations.
Alors il y a ces crêtes et ces villages perchés et il y a aussi les sols dans votre travail.
Oui, j'ai pour habitude de traverser des espaces qui m'intéressent, des territoires, une forme de structure urbaine et puis de composer des images, paysages urbains, de nuit, et de le photographier au flash avec une vitesse d'obturation rapide. Et finalement, on n'a que les premiers plans qui apparaissent, qui vont être enregistrés. Et toute la capacité, finalement, de projection de la perspective disparaît dans l'obscurité.
Est-ce que ce travail sur la Kabylie, Karim Kahl, est aussi une sorte de travail identitaire ?
Pas vraiment. J'ai pas cherché à révéler ou à creuser un éventuel lien. Non, l'élément biographique qui est important, c'est que un certain nombre d'histoires, de récits, de légendes liées à ce territoire se transmettent de manière orale. Et ayant des liens familiaux avec le territoire, j'ai pu recevoir ces histoires depuis l'enfance. Et en fait, j'ai une proximité, une familiarité avec ce territoire que malheureusement d'autres personnes ne peuvent avoir s'ils n'ont pas de liens familiaux.
Merci.
Merci.
L'exposition Mont Ferratus du photographe Karim Kahl est présentée à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris jusqu'au 13 avril. Un livre avec ses photographies est aussi publié, disponible aux éditions Xavier Barral.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
À 5h24 à Paris, le Conseil Santé avec Caroline Paré. On parle ce matin de douleurs au dos.
Docteur Awash Andao, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin interniste et rhumatologue à l'hôpital Aristide Le Dantec à Dakar au Sénégal. Pour quelle douleur dorsale l'immobilisation est-elle recommandée?
L'immobilisation est recommandée dans les douleurs dorsales seulement en phase aiguë où la douleur est vraiment intense. On peut immobiliser, mais pas trop. Et l'idéal, c'est de maintenir vraiment une activité tolérable.
Après cette phase aiguë, d'ailleurs, cette phase aiguë, en général, elle dure combien de temps?
Moins d'une semaine, dans les 3-5 jours maximum.
À ce moment-là, il est recommandé de reprendre le mouvement, l'activité physique?
Oui, reprendre le mouvement dès que possible. Même en phase douloureuse, essayer de petites activités d'étirement du dos, mais ne pas vraiment garder le lit pas trop longtemps.
Comment savoir justement pour ne pas trop forcer et en fait ne pas ressentir à nouveau ces souffrances, ces douleurs aiguës?
L'activité doit être adaptée à l'état de santé de la personne en même temps et aussi c'est à elle de voir si elle supporte ou ne supporte pas et aussi sous conseil d'un médecin ou bien d'un kinésithérapeute.
Est-ce que l'on peut reprendre cette activité en prenant en même temps des antalgiques ou c'est plutôt déconseillé?
Bien sûr, parce que si on prend les antalgiques ou bien les anti-inflammatoires en phase aiguë, ça permet non seulement de réduire rapidement la douleur, de réduire l'intensité de la douleur et de réduire la durée de la poussée. Et si la douleur est réduite ou bien même si la douleur disparaît carrément, ça permet de reprendre plus rapidement les activités physiques, que ce soit activité professionnelle et activité sportive.
Merci Dr. Awa Chandao. Dans Priorité Santé aujourd'hui, l'écriture qui guérit. Comment l'écriture peut-elle agir notamment sur un traumatisme psychique, des récits pour exprimer, des récits autobiographiques ou de fiction pour réparer? On se donne rendez-vous à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
À tout à l'heure Caroline Paré pour l'heure 5h26, à Paris 4h26 en temps universel. Dans quelques minutes, le retour de l'actualité africaine avec un nouveau journal, la situation en RDC à la une. Nous, on fait un tour dans la playlist musicale du mois de RFI. On écoute Kifo Chamende, un titre d'Iyani avec Moana et Sedou.
C'est ma ouh. Basi tu nice, juze tu zime nice.
Mwana
sema uuuu iaya.
Kwa majina ni Yani.
Cheza do basi tu nice, juze tu zime nice.
La la la, ako kapenika area. Naka kitaka mui chapa,
chapa.
Nakula kia pondai hapa.
Aje
don't pon it, niki rusha ma mistare. Uyungo wene nguwa mwili hatare. Wine and cut, nishikishe male. Tuende maeneo chuma ilalilane.
Iyani bad boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo Marcel napenda matingo. Kifo cha mende ama wagido. Uuuu, iya ya.
Ufa deleva makanga. Leo ni kifo cha mende.
Ya. Maji mipatana na waya ya stima. Hata ya sina, nepiga kijonsina. When I'm done, you can't see me. Ah, vuta kaya, harufu mbaya. Nyama njege na manduku lumbaya. Unaishi wapi ya haya? Notoka wapi ulaya?
Nyashi yake soft, kama Matias. Na ipapase na nitoa stress. Kama mzinga ni jaka bless. Na majirani wata witness. Ia ni bad boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo Marcel napenda mastingo. Kipo cha mende ama wagido. Uuuu, iya ya.
Kufa deleva makanga. Leo ni kipo cha mende.
Sema uuuu, iya ya.
Leo tunakunja kitanda. Udonjo kutunda na yeye.
Kifo, Chamende, des Kenyans, Iyani, Moana et Sedo. Vous retrouvez ce titre dans la playlist du mois de RFI. Dans un peu plus d'une minute maintenant, c'est le retour de l'actualité africaine avec un nouveau journal de Sébastien Duhamel.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
À Louga, dans le nord du Sénégal, les contes et les épopées ont la vie dure. Pour raconter l'histoire des anciens royaumes, éduquer les enfants, conteurs et griots ont plus d'un mot sur la bouche et pas des mots à la légère, selon Youssour Margane, déclaré trésor vivant en son pays.
De vive voix, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Ce mercredi, vivez sur RFI la soirée spéciale Ligue des Champions. Cédric de Oliveira.
Objectif 8e de finale, le Real Madrid de Kylian Mbappé retrouve Manchester City une semaine après sa victoire 3-2 en Angleterre. Pep Guardiola et les Sky Blues rêvent de prendre leur revanche. Le PSG tentera lui